Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série intitulée « Quelques conseils que la Bible nous donne pour notre vie ». C'est l'étude numéro 3. Premièrement, lorsque on gagne beaucoup d'argent et qu'on n'a plus le temps de le dépenser, ni d'en faire profiter les autres. Donc, contre les pensées qui me taraudent d'amasser le plus possible sans voir l'angoisse que la richesse me procure, la Sainte Bible nous dit « Si votre richesse fructifie, alors n'y attachez pas votre cœur. » Vous comprenez? Nous ne devons pas attacher notre cœur à d'éventuelles richesses que nous possédons. Psaume 62, verset 11. Nous avions la richesse que certains voisins possèdent. On aurait aimé les avoir. Alors nous les envions. Malheureusement, on ne devrait pas. Mais ne réfléchissons pas assez à ce que signifie cette richesse. Certes, nos voisins gagnent parfois beaucoup d'argent. Mais ce qu'on oublie, c'est souvent au prix d'un très dur travail. Il ne connaît ni samedi ni dimanche. Mais donc, soyons sincères, sa qualité de vie, je vous pose la question, sa qualité de vie, où est-elle vraiment ? Travailler pour gagner davantage encore. Dans de nombreux pays, les richesses doivent ceindre leurs villas de hauts murs, souvent surmontés de barbelés, sans compter tous les appareils sophistiqués pour filmer. Leur richesse les isole donc des autres hommes. Et lorsque nous nous contentons d'envier le bien des autres sans penser à tout cela, alors notre cœur ne se réjouira pas de voir se multiplier notre richesse. Nous pensons que plus nous posséderons, c'est ce que nous pensons, plus nous serons heureux. Mais le psalmiste nous affirme le contraire et sa parole peut progressivement miner nos réflexions, relativiser et inverser même notre pensée. Attention, je n'ai pas dit que Dieu désire que nous soyons le plus pauvres possible. Je n'ai pas dit ça. Mais vouloir toujours plus, c'est parfois pas très indiqué. Deuxièmement, on entend souvent dire « qui cherche du travail en trouve, nous sommes les forgerons de notre bonheur ». Contre l'âme qui n'éprouve pas de compassion, tant la passion de la cupidité la procure ou la préoccupe, eh bien, notre Sainte Bible nous dit que fidélité et loyauté ne te quittent. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, et tu trouveras faveur et bon succès aux yeux de Dieu et les hommes. Proverbe chapitre 3, verset 3. Donc, si nous voulons comprendre ce que le vieux livre nous dit, La cupidité me rend souvent insensible en me coupant de mon cœur et de la miséricorde. Quand le cœur n'a plus de sensibilité, il se ferme pour les pauvres et pour les réduire au silence. Donc ma raison ne manque pas de théories sur la pauvreté des autres. Par exemple, qu'ils en sont simplement responsables, qu'ils ne travaillent certainement pas assez, que celui qui travaille gagne de l'argent et que s'il se donne du mal, eh bien, il en aura suffisamment. Eh bien, voyez-vous, se forger une théorie apparemment très correcte, une théorie de ce genre, ça c'est le meilleur moyen d'éluder la question. C'est simplement refuser de m'ouvrir à l'autre. Or, pour lutter contre cette indifférence, je dois, vous l'avez compris, accrocher la compassion à mon cou et l'écrire sur la table de mon cœur. Elle doit donc devenir mon commandement le plus intime et me mettre en garde contre toute doctrine qui m'éloigne de mon propre cœur. Troisièmement, moi, je dois travailler, je n'ai pas le temps pour autre chose. Eh bien, contre cette avidité de posséder qui nous pousse à travailler jour et nuit, qui nous empêche même de lire les Saintes Écritures et qui nous retient de visiter les malades et de leur porter un tout petit secours. La Bible dit « La fortune ne sert de rien au jour de la mort ». Elle dit la Bible au jour de l'emportement. On comprend que ça veut dire au jour de la mort. Donc je répète, la fortune, elle ne te sert à rien au jour où tu dois quitter ce monde. Mais la justice délivre de la mort. Proverbe 11, verset 4. Certains pères de famille justifient leurs obsessions du travail par la nécessité de subvenir aux besoins de leur maisonnée. Ils prendront du temps pour elle quand ils auront travaillé et amassé suffisamment d'argent. Mais ce temps, très souvent, n'arrive hélas jamais. Ils s'obligent eux-mêmes à travailler toujours davantage, à saisir la chance qui se présente à eux de peur qu'elle ne leur échappe. Ils ne se rendent pas compte que cet investissement dans le travail ne fait que combler leur vide intérieur. Ils ne prennent même pas le temps de faire silence. Ils n'entrent jamais en contact avec eux-mêmes, ni par la prière, surtout pas, ni par une promenade toute simple. Ils se fuient eux-mêmes. Je présume ici l'inutilité de la richesse au jour de la colère, c'est-à-dire probablement au jour de la mort. La chemise du mort, il me semble qu'elle n'a pas de poche. Selon ce dicton, on n'emporte rien, absolument rien, dans sa tombe. Seul compte à ce moment ma conduite. Ai-je été juste? Ai-je mené une vie droite? Dans ce cas, je me tourne de tout mon être vers Dieu et je m'en remets à son amour infini. Quatrièmement, On entend souvent dire, vous savez, j'ai besoin de tout cela pour mes vieux jours, rendez-vous compte, pour maintenir mon niveau de vie, car le dimanche, nous avons l'habitude d'aller manger un repas gastronomique dans un endroit environ 5 étoiles. Ça ne fait rien combien ça coûte, mais c'est tout ce qu'il nous reste. Ne sommes-nous pas un peu à plaindre, pauvres de nous? Voyez-vous, contre la pensée qui dresse devant nos yeux l'image d'une perte de notre argent et de nos biens, cela est considéré par notre ami Job comme un grand réconfort physique. Job nous dit ceci: Yahvé a donné, Yahvé a repris. Béni soit donc le nom de Yahvé. Job chapitre 1, verset 21. J'ai fait connaissance avec la théologie de la prospérité qui est issue de certains courants pentecôtistes américains et qui se réfère également à la Sainte Bible. Eux, ils pensent que Dieu offre le bien-être à celui qu'il bénit. Plus je gagne de l'argent, comme Donald Trump, et plus je suis béni par Dieu et je jouis de sa bienveillance. Or Job, lui aussi, vivait dans l'aisance et pouvait s'en réjouir. Et Dieu ne veut-il pas que nous soyons heureux de notre vie? Mais il semble que ni Job, ni ceux qui professent la théologie de la prospérité ne se rendent compte qu'ils n'utilisent Dieu que à leur seul profit et qu'en fin de compte, l'argent se transforme en Dieu, en mammon, au Dieu le veau d'or, et que Dieu doit être au service de l'argent. À ces pensées-là, je vous oppose les paroles que Job prononce lorsqu'il se trouve démuni. Rappelez-vous, il dit « Yahvé a donné, Yahvé a repris. Béni soit le saint nom de Yahvé. » Dieu peut donner, certes, mais il peut aussi reprendre. Même dans ce cas-là, nous sommes dans de bonnes mains. Oh oui, même quand nous ne comprenons pas toujours le sens de ce qui nous arrive, il importe toujours, je vous le dis sincèrement, il importe de glorifier Dieu. Cinquièmement, être triste sans raison, c'est bien entendu avoir une raison d'être triste. De plus en plus de personnes disent, il y en a des quantités, qui disent, oh, vous savez, personne ne se soucie de moi. Si je venais à mourir maintenant, eh bien, nul ne s'en apercevrait. Eh bien, pour l'âme découragée, qui pense que les anges de Dieu ne veillent absolument pas et jamais sur elle, la Bible dit, « Voici que moi, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et pour te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Exode, chapitre 23, verset 20. Voyez-vous, certains chrétiens disent, avec raison, que la tristesse provient souvent de ce que nous avons des attentes exagérées vis-à-vis de la vie et une attitude expectative infantile à l'égard des autres, qu'ils nous aiment et ils nous admirent, surtout si nous sommes riches. Et dès lors que ce souhait n'est pas exaucé, nous succombons à des pensées contraires. Personne ne m'aime. Personne, oh non, personne ne s'occupe de moi. Je ne compte pour absolument personne. Je ne vaux donc absolument rien. Je pourrais bien, et j'ose pas dire le vilain mot, mourir, que personne ne s'en apercevrait. Il y a du vrai là-dedans. Il n'y a pas si longtemps que ça, une personne est morte dans son appartement, et pourtant ce n'est pas dans le tiers-monde, ça se trouve à Genève. Elle est morte toute seule, cette personne, abandonnée totalement. Et elle était morte depuis, paraît-il, depuis déjà passé 2 mois. Quand enfin des voisins ont trouvé que ça sentait pas très bon à travers la porte, ont averti les autorités et etc., etc. Eh bien, voyez-vous, dans nos civilisations soi-disant très civilisées, vaccinées, diplômées, et j'en passe, il y a de plus en plus de solitude. Dans le journal d'hier, c'était écrit que il y avait, dans ce petit pays soi-disant confortable de la Suisse, de plus en plus de jeunes qui ont des burn-out et qui se suicident. C'est pas très drôle, ça. C'est affreux. Vous voyez ? C'est pas le tiers-monde. On va pas très bien. On va même pas du tout bien. Donc, je répète, certains chrétiens disent avec raison que la tristesse provient souvent de ce que nous avons des attentes exagérées vis-à-vis de la vie et une attitude expectative infantile à l'égard des autres, qu'ils nous aiment et nous admirent. Et dès lors que ce souhait n'est pas exaucé, nous succombons à des pensées contraires et nous crions avec désespoir. Personne ne m'aime. Non, personne ne s'occupe de moi. Je ne compte pour personne. Donc je ne vaux rien. Je pourrais bien mourir que personne ne s'en apercevrait. Voyez-vous, je préfère ouvrir mon regard sur l'ange, même que la plupart d'entre vous n'y croyez pas. Mais moi, j'ai constaté plusieurs fois que l'ange protecteur existe, qui chemine à mes côtés. L'ange est mon accompagnateur intime qui me conduit sur mes chemins de travers et mes fausses routes, qui m'épaule même si je suis insupportable aux yeux des autres et à mes propres yeux. Le regard sur l'ange qui me soutient, qui m'épaule toujours, même quand je m'abandonne moi-même, eh bien cet ange transforme peu à peu ma tristesse en confiance. Ça ne veut pas dire, et ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Premièrement, nous devons nous adresser à notre Sauveur et Seigneur bien-aimé, Jésus-Christ. Mais il semblerait, si vous étudiez soigneusement tout cela, que Dieu a créé des anges. Et sur Internet, 3 fois W, donc www, Bible explique en un seul mot, .ch, vous pouvez écouter toute une série d'études concernant les anges. Et vous comprendrez qu'ils existent. Et n'oubliez pas d'essayer d'écouter la série concernant Marietta. Ah, ça, vous allez tomber de votre chaise. Oui, je vous dis, essayez d'écouter. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Enfin, il paraît que c'est gratuit. J'en ai fait plus de 3000 de ces études. Sixièmement, la force salutaire et apaisante de la musique lorsque le trouble envahit l'âme. Oui, voyez-vous, pour l'âme qui ne pense pas que chanter un psaume peut transformer l'état physique en chassant un démon qui paralyse les envies et les aspirations et qui retient tous les membres. Le Saint Livre nous dit, quand un esprit négatif se trouvait sur Saül, David prenait la lyre et il en jouait. Saül se calmait et se trouvait mieux. Et l'esprit mauvais entre nous, c'est un démon. Mais on n'ose plus dire ce mot, alors on dit l'esprit mauvais. Se retirer loin de lui. 1 Samuel, chapitre 16, verset 23. La personne triste, elle s'enfonce souvent dans sa tristesse, avec l'impression qu'elle ne peut lutter contre. Elle n'en peut plus. Elle est fatiguée. Elle lui attribue une dimension pathologique en la nommant dépression. Et contre la dépression, évidemment, on ne peut de toute façon rien faire. On porte en soi cette maladie et on doit la supporter ou au mieux la contenir à l'aide de médicaments. Alors moi je vous envoie au pouvoir bienfaisant de la musique. Pour les psaumes chantés, ils ne transforment pas seulement l'âme, mais aussi le corps, le rythme musical fait entrer les êtres en contact avec le rythme intérieur de leur âme. Et l'harmonie de la musique engendre une harmonie des forces de l'âme. Nous ne sommes pas livrés impuissants à notre tristesse, mais pas du tout. Dieu nous a fait cadeau de la musique comme remède. Tout le monde peut chanter. Il suffit de le faire de temps en temps. Septièmement, de plus en plus de personnes disent « Que voulez-vous ? Je suis tout simplement dépressif et je n'y peux rien. » Contre les pensées qui nous incitent à fuir la face méchante des démons au lieu de l'affronter courageusement, la Bible dit en Yahvé, je m'abrite. Comment dites-vous à mon âme, fuis, passereau, vers les montagnes? Arrière de moi, esprit de dépression, au saint nom de Jésus-Christ. Psaume, chapitre 11, verset 1. Les dépressifs sont très nombreux à capituler face à la dépression sous le prétexte qu'on est impuissant face à elle. Ils ne la regardent pas comme un défi, mais s'abandonnent à leur sort, ou bien ils la fuient en s'affairant outre mesure et souffrent alors d'une dépression dite agitée. Oui, ils souffrent terriblement. Et dans un cas comme dans l'autre, ils ne font rien, absolument rien, contre tout cela et la laissent garder sur eux son emprise. Or, le verset du psaume nous conseille dans de telles situations et nous invite à refuser la fuite. Un passereau peut fuir, c'est vrai, mais pour un être qui a mis sa confiance en Dieu, la fuite est impossible. L'homme doit apprendre à lutter. Pour le chrétien, la vie est une lutte permanente et la dépression exige également qu'on la combatte, car nous n'y sommes pas livrés sans aucune défense. Nous ne pourrons peut-être pas toujours en venir complètement à bout, mais nous pouvons au moins juguler son action de manière à pouvoir vivre avec elle. Mais si la dépression vient des démons, chers amis, nous pouvons en être délivrés. Et sur Internet, que j'ai déjà mentionné, vous avez toute une série d'études concernant la démonologie. Huitièmement, lorsqu'au journal télévisé, on n'entend parler que de destruction de l'environnement, de catastrophes, de guerres et de famines, et ces jours-ci, des feux gigantesques, aussi bien en France qu'au Portugal et aux États-Unis, la prière adressée au Seigneur, intéressée, oui, c'est une prière qu'on appelle l'intercession. Et nous devons intercéder dans la prière énergiquement parce que le démon de la tristesse modifie mon état intérieur, le maintenant souvent dans un souci permanent plein d'accablement et d'accablement violent. Or, la Bible répond, « Combien de temps le verras-tu, Seigneur? Soustrais mon âme à leur ravage, au lionceau, mon unique bien. » Psaume 35, verset 17. Chers amis, n'entendre parler que de catastrophes au journal télévisé peut nous rendre dépressifs, évidemment. Nous avons l'impression que Dieu est bien loin de ce monde, que tout va de travers, que le malheur sévit absolument partout. Comment espérer alors un monde meilleur? Or, en dépit de tout le mal qui y règne, il y a quand même la beauté de la création et qu'il existe des hommes et des femmes bons qui s'engagent pour les autres. Il y a des pays où il y a beaucoup de solidarité. entre les gens, même entre des gens qui sont même pas croyants. C'est pas tellement le cas dans mon pays, la Suisse. Je le reconnais et j'en suis navré et triste. On ne sait pas de quoi ça tient. Mais loin d'en appeler à notre patience, je vous propose des paroles qui nous lancent un défi, qui remettent notre pensée en question. Je vous exhorte donc à nous tourner vers Dieu, afin qu'il prenne soin de nous. C'est alors que notre vie connaîtra le salut au sein d'un monde empli de malheurs. Neuvièmement, vous savez, je dois vous dire, avec ce que j'ai vécu, ce n'est vraiment pas étonnant que personne ne m'aime, et moi-même encore moins. Voyez-vous, contre l'esprit malin qui s'oppose à mon âme, qui me rappelle les péchés de mon passé et qui cherche à me plonger dans le désespoir, la Bible répond « Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si j'habite dans les ténèbres, Yahvé, l'Éternel, est ma lumière. » Michée, chapitre 7, verset 8. Certains sombrent dans la tristesse à l'examen de leur passé. Oh là là, moi je pourrais même me flinguer en pensant à mon passé. Mais je ne vais pas faire ce plaisir à l'ennemi, et je vous exhorte de faire de même. Non, ne lui faites pas plaisir. En considérant les blessures que la vie nous a infligées, or au sommet de son succès, le fameux prophète Élie déjà avait admis un jour « Je ne suis pas non plus meilleur que mes pères. » Or, Élie n'était pas n'importe qui. Reconnaître que nous sommes imparfaits, que nous avons fait des erreurs, cela nous précipite dans l'affliction. Nous ne pouvons nous pardonner d'être ce que nous sommes, d'accord, de nous être conduits ainsi jusqu'alors. De tels mots de consolation n'appelleraient que des objections de notre part. Peut-être, mais ce que j'ai fait par ailleurs n'est pas bien, et je le sais. Alors je choisis une parole du prophète Michée, par laquelle nous reconnaissons que nous avons failli par moments dans notre vie, qu'il est vrai que notre vie n'a pas été droite sur toute la ligne, mais qui nous fait réagir face à ce qui est allé de travers et de nous redresser. Au milieu de nos ténèbres, Dieu sera notre lumière, et nous pourrons alors avouer tout ce que nous avons fait de mal, puisque nous savons, et c'est le plus important, que la lumière de Dieu illumine notre nuit et chasse toute obscurité. Et dixièmement, en terminant notre étude d'aujourd'hui, lorsque on demande et qu'on demeure inconsolable, souvent nous sommes inconsolables de la perte d'un être très cher, et j'en sais quelque chose. Ma femme, elle est morte il y a 26 ans maintenant, par négligence médicale. Et ça s'est pas passé au tiers-monde. J'ai presque pété les plombs, comme vous dites en français. Prière adressée au Seigneur pour contrecarrer la tristesse qui conduit l'âme dans un abîme empli de mort et imprégné le cœur des visions macabres, signe que l'âme est en danger. Or le Saint-Livre répond « Pourquoi ma douleur est-elle sans fin, ma plaie ingérissable, refusant de guérir ? Serais-tu donc pour moi comme un ruisseau trompeur, comme une eau sur laquelle on ne peut compter ?» Jérémie chapitre 15, verset 18. Il est un fait que je suis infiniment triste de la mort d'un être aimé. Dans mon deuil, j'ai le sentiment que le sol se dérobe sous mes pieds. Tout se brouille en moi et je sens que je peux m'écrouler. Porter le deuil, c'est être là, c'est être sans force, c'est ressentir un chaos intérieur et ne plus savoir où l'on est. Dans une pareille situation, je vous incite à vous ouvrir à Dieu et de vous tourner vers Dieu. Tournez-vous vers votre Sauveur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas toutefois de prier le Seigneur de transformer ma douleur, mais de lui demander pourquoi elle est si intense, pourquoi elle me semble si dépourvue d'espoir. Cette demande à elle seule, sans pour autant évaluer ma souffrance, elle peut la transformer. Je peux au moins la présenter à quelqu'un qui ne va pas me juger. C'est celui qui est mort à la croix pour moi, pour me sauver, pour me racheter. Lui, Jésus-Christ, qui a versé son sang précieux. Oui, pas seulement pour me sauver, mais plusieurs fois, il m'a même miraculé, guéri, car j'étais souvent mourant. Chers amis, croyez-moi, vous pouvez écouter gratuitement sur Internet environ 350 études sur le salut et la guérison. Et tout est strictement biblique, avec tous les versets contenant chaque étude. Nous allons maintenant prier et je vous dirai une strophe d'un très ancien cantique. Ensuite nous prierons et je vous mettrai quelques chants d'un très lointain passé, il n'y avait pas de CD en ce temps-là. 1958, ça fait quand même quelques lunes, ça fait vieux. Voici donc les paroles de ce ancien cantique. Trésor incomparable, tendre et fidèle ami, refuge du coupable, pressé par l'ennemi, soumet à ta puissance mes sens et mon cœur. Toi qui par ta souffrance guéris seul ma langueur. Oui, montre-moi ta grâce et ton cœur plein d'amour. Oh, viens au soleil de grâce m'éclairer nuit et jour. Sans ta douce influence, la vie est une mort. Jouir de ta présence, c'est le plus heureux sort. Prions. Ô notre Dieu, qui nous appelle à être saints dans toute notre conduite, selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Sanctifie-nous par ta sainte parole, car ta parole est la vérité. Que cette semence incorruptible qui vit et qui demeure éternellement, que cette vérité qui nous a été annoncée par l'Évangile demeure en nous abondamment. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce que par la résurrection de notre Sauveur, tu nous as donné une espérance vive de posséder l'héritage qui est réservé dans les cieux à tous ceux, oui, à tous ceux qui croient tellement que tu nous appelles dès maintenant héritiers de Dieu et même co-héritiers de Christ. Oh, que nous sentions toute la responsabilité qu'un pareil titre fait peser sur nous. Donne-nous de vivre sur la terre comme étant déjà dans le ciel. Pourquoi pas? Parce que nous y avons notre cœur et notre trésor, et de nous conduire comme des bourgeois des cieux et des imitateurs de Jésus-Christ. Si tu nous as fait en lui roi et sacrificateur, c'est afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Aurons-nous fidèles à tant de grâce que nous ne pouvons encore qu'entrevoir et que nous ne comprendrons vraiment que quand nous connaîtrons comme nous avons été connus. Élève-nous par ta puissance au-dessus de la terre et de ses éductions et apprends-nous à vivre toujours plus près de toi et pour toi par le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Et maintenant, j'essaie de vous mettre quelques très, très anciennes mélodies de 1958.